RFI.
Alors, on dit quoi ?
Hello, bienvenue sur les ondes de RFI, c'est l'heure de votre émission. Alors, on dit quoi ? Alors, on dit quoi ? Qui fait place à la mode, pas n'importe laquelle, celle africaine et surtout celle des jeunes créateurs qui font le buzz. Depuis quelques années, la mode africaine est l'objet de toutes les attentions. Les Vax, Bazin, Quinté, Bogolan ou encore Batik ont investi la mode non seulement en Afrique, mais surtout dans le monde. Une infinité de créateurs locaux trouvent petit à petit leur place dans une industrie très concurrentielle. C'est le cas de nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Au programme également de notre émission, une initiative particulière, Africrea, mise en place par Kadri Diallo et qui permet aux créateurs africains de vendre leurs produits en ligne. Voilà, voilà, je vous propose d'y aller de suite. Atianudem, c'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Djaran Djaï.
Palais, cérémonies officielles ou encore bureaux, la mode africaine a investi les lieux les plus prestigieux et n'a plus aucune frontière. Fini les costumes cravates ou les tailleurs pantalons noirs. Place au total look en vax, en bogolan, bazin, quinté ou batik. La mode africaine représente un marché important et une infinité de créateurs trouvent petit à petit leur place dans l'industrie concurrentielle. C'est le cas de nos invités. Bonjour à vous, Diaïna Diaw.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Peul Vagabond.
C'est bien ça, tout à fait.
Bonjour à vous également, Youssouf Fofona. Vous avez fondé la maison Château Rouge.
Bonjour. C'est bien ça.
Je viens de le dire, les acteurs africains innovent, les tendances du continent ont transformé la mode mondiale. Il y a de ça une vingtaine d'années, grâce à son expansion, son impact sur la mode occidentale, mais aussi grâce à l'intégration de codes africains dans la construction d'une nouvelle esthétique mondiale. Illustration dans ce reportage de Christelle, notre correspondante à Abidjan.
Grand Bassam, cité balnéaire au sud de la Côte d'Ivoire. C'est dans un atelier coloré d'où se dégagent des effluves dansants au milieu de ces créations que l'on retrouve un jeune homme grand vêtu d'une tunique blanche.
Bonjour, je suis Zach Koné, couturier et designer de la marque PLB, donc qui est une ligne de sur-mesure de robes de cocktail et de soirée. Quand je disais robes, on va plutôt aller sur des tenues de cocktail ou des tenues de soirée.
C'est sur le tas et aidé de son mentor, une célèbre designer de bijoux basée à Abidjan, que Zach Koné apprend les rouages du métier. En 2013, la marque PLB voit le jour.
Pour moi, aujourd'hui, PLB, au-delà même de la marque, c'est un style, c'est vraiment devenu un style, c'est le chic. C'est l'élégance, donc que ce soit simple ou un tout petit peu exagéré, le plus important en fait c'est que c'est beaucoup d'élégance, que cela mette en fait la femme sur son plus bel atout, j'ai envie de dire.
Après son passage à l'International Fashion Academy à Paris en 2017, Zach entend positionner PLB comme une marque de luxe made in Côte d'Ivoire.
Ce rêve qu'on essaie vraiment de créer dans tous les vêtements que nous faisons, j'ai envie de vous dire que ça me donne envie d'aller plus loin, de chercher encore plus, de vraiment creuser, de surtout de regarder les failles et de creuser là-dedans encore pour essayer de sortir quelque chose de positif. Que PLB bientôt devienne quelque chose de plus accessible, donc déjà à nos populations parce que c'est une des missions jeunes créateurs. J'aimerais habiller les populations africaines.
Sur les scènes du FIMA, de la Dakar Fashion Week ou plus récemment de la Fashion Week de l'île Maurice, la marque PLB a réussi à s'imposer. En voile de coton, soit imprimé wax ou pure wax, ces tenues sont inspirées de la pure culture africaine. Il est Monsieur Robe de soirée. Dans son atelier de la zone sud d'Abidjan, nous sommes plongés dans l'envers du décor de la marque Niamia. Franck, c'est bien de lui qu'il s'agit, est en pleine discussion avec une future mariée.
En fait, l'autre, pour que ça puisse donner un peu de volume.
J'avais toujours rêvé de faire des robes de mariée, d'accompagner les femmes en cet instant de bonheur. Donc la robe de mariée Franck Niamien, c'est celle-là qui est plus dans la matière que dans les artifices. Et donc on va dire la marque Niamien, c'est vraiment luxe et simplicité. Vous retrouverez des dentelles perlées de perles de nacre. Vous retrouverez des cristaux de Swarovski parfois. Sur mes robes, vous trouvez d'autres matières encore plus nobles, mais dans une simplicité qui me caractérise.
Robe de mariée, de gala ou de grand soir, la marque Niamien, c'est déjà 3 années à sublimer les femmes. Mais pour le créateur, ça a été tout un parcours pour pouvoir aujourd'hui donner le sourire à ces femmes.
Commercial né, j'ai fait un BTS en gestion commerciale. C'était un stage en 7 ans, c'était une grande entreprise ivoirienne. Mais la passion de mode était toujours là et un jour je me suis dit, on va se lancer. Donc, dessinateur depuis mes tendres enfances, je faisais toujours des robes et tout ça, à feuilleter, à rechercher l'histoire des créateurs. Et bon, la fibre était là et j'ai juste décidé de m'y mettre. Je me plais à dire que je ne me bloque pas dans un certain carcan. J'achète des matières aussi simples, moins chères, ou celles qui disent « je rêve qu'ils m'habillent, mais j'ai pas le budget des plus grandes femmes », comme j'achète des matières les plus chères, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de trouver le sourire, en fait, dans le visage de la femme. Donc qu'elle soit nantie ou pas, il faut qu'elle puisse trouver sa place chez moi.
Sa passion, son expérience acquise des différents podiums et son travail acharné l'a amené à offrir le 27 avril 2019 un show haut en couleur baptisé « Enyamien Créa ».
J'ai présenté la première collection, le premier one-man show, comme diraient certains artistes. C'était 50 pièces de collection, 50 pièces de haute couture. C'était des top modèles venus de partout. Il y a eu le grand top Valérie Ayena, Miss Cameroun 2013, qui défile aujourd'hui sur Paris Fashion Week, qui est venue. Il y a eu Mariam Thiam du Burkina, il y a eu Miss Burkina Cynthia Sankara, et pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a eu Miss Côte d'Ivoire en mandat qui a fait le final. Donc c'était beaucoup de surprises, Enyamien Créa, et on vous en réserve encore plus pour la prochaine édition.
Décembre 2018, Global Citizen Festival en Afrique du Sud. Beyoncé est prise en photo dans une jupe asymétrique en wax qui fait le tour de la toile. Cette jupe, c'est du Yebe Design.
Je suis Rebecca Zoron, créatrice de la marque Yebe Design. Yebe, c'est le nom que mon père m'a donné quand j'étais petite. Et Yebe signifie « viens voir ». Et design, pour le design que je fais, pour mes coupes, pour ma manière de m'exprimer.
Derrière cette marque, c'est une jeune Abidjanaise passionnée et déterminée qui a su créer un style hors du commun.
Mon style Yebe, c'est tout un mélange, en fait. D'abord, on trouve des coupes assez vintage, parce que j'aime bien le vieux, j'aime l'ancien. Et en même temps, on a des coupes un peu modèles, avec des coupes carrées, des coupes qui sortent un peu, qui sont très asymétriques, géométriques, tout et tout. J'aime pas tout ce qui est monotone, et j'aime aussi l'architecture. Et l'architecture d'Abidjan m'inspire vraiment beaucoup.
C'est des étoiles plein les yeux que Rebecca nous parle de celle qui a créé le déclic, sa principale inspiration.
C'est le fait de regarder ma mère s'habiller, parce que ma mère c'est une grande sapeuse. C'est de voir ma mère dans un champagne, qui était toujours sur son 31, même pour aller au marché. Et elle me fascinait, en fait. Donc je voulais rendre les femmes aussi belles que ma mère.
En seulement 3 ans et demi, notre styliste a su positionner sa marque Yebe Design sur le plan local et international.
Quand on décide d'entreprendre, il faut se donner les moyens de communiquer, les moyens de savoir où on va. Et c'est au fur et à mesure de vouloir communiquer, de vouloir faire connaître ma marque au plus grand monde possible. Plus tu communiques, plus on te connaît et plus on a envie de savoir vraiment ce que tu fais.
Si ces 3 jeunes stylistes ivoiriens voguent sur la vague du succès, c'est le fruit du travail, mais surtout une vision claire sur l'avenir. Pour Franck, le gros projet est l'ouverture d'une boutique de robes de mariée signée Niamia. Rebecca Zoro fait la promotion de sa boutique en ligne où on retrouve toutes ses créations. Zach Kone lui travaille sur les dernières créations signées Pellegrini.
De nombreux projets pour ces créateurs et nous avons nous aussi des créateurs sur ce plateau. Nous a rejoint Aïssé Ndiaye qui est la fondatrice de la marque Africanista. Bonjour Aïssé.
Bonjour.
Alors on va commencer par vous puisque vous venez d'arriver. Nous avons écouté ce reportage autour des créateurs en vogue en Côte d'Ivoire. Est-ce que un de ces créateurs vous a marqué?
Oui, à la créatrice Yebe Design. Il y a où justement Beyoncé il y a quelques mois avait porté une de ses créations et un de mes t-shirts en même temps.
Un beau souvenir j'imagine pour vous.
Un très beau souvenir qui m'a valu pas mal de visibilité sur internet et qui a beaucoup engendré de ventes sur mon site de vente en ligne.
Alors on va reparler justement de ce beau buzz que vous a apporté Beyoncé. Juste avant on va recueillir les impressions et les avis de nos autres invités. Alors Youssouf, qu'avez-vous retenu de ce reportage?
Alors, je trouvais ça hyper intéressant et inspirant. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ces créateurs présents sur le continent africain nous inspirent beaucoup dans la façon dont ils ont de retravailler des textiles traditionnels et des textiles locaux. Et je trouve que c'est hyper intéressant et inspirant. Et nous, ça nous donne envie de faire plein de choses. Et moi, je trouve ça aussi hyper fort. Aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, etc., on peut se retrouver à Abidjan ou à Dakar et puis toucher une cible qui est internationale. Et je pense qu'il y a quelques années, c'était quasiment impossible. Donc, c'est assez fort et plein d'espoir.
Vous partagez ce point de vue, Jaina, je vous ai vu acquiescer.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'avec la magie des réseaux sociaux, en 2019,
19, on a une telle ouverture sur le monde qu'on peut aussi bien consommer japonais la veille et consommer ivoirien le lendemain, donc c'est de bonne augure. Voilà.
On a par exemple Africanista qui est très très utilisé et très populaire sur les réseaux sociaux. Ça a été fondé en 2014 et sa particularité, c'est cette touche originale avec des messages imprimés en lettres capitales sur des t-shirts, des sweatshirts ou alors des sacs, et avec des proverbes africains surtout. C'est ce qui est intéressant, c'est votre stylisme engagé pour vous, Aïssé?
Je dirais pas engagé, mais en tout cas fortement ancré au niveau de la culture ouest-africaine et plus particulièrement la culture subsaharienne.
Et où est-ce que vous trouvez ces proverbes, ces phrases comment vous trouvez votre inspiration finalement?
Je fais pas mal de recherches sur Internet et les proverbes que je choisis ne sont pas choisis au hasard. C'est propre à des thématiques spécifiques. Par exemple, au sein d'Africanista, j'ai choisi 4 proverbes africains. Comme par exemple, aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs historiens, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. C'est un proverbe phare au niveau de la marque parce que ça condense un petit peu l'histoire des Noirs à l'heure actuelle et que à travers ce proverbe, en fait, j'aimerais dire que aujourd'hui, en tant qu'afro-descendants, c'est à nous de raconter notre histoire, nos vécus, nos expériences. À travers nos yeux, à travers nos lunettes.
C'est un beau message, vous partagez ce point de vue. Aujourd'hui, il faut cette identité africaine, même à travers de simples vêtements.
Je pense qu'on est un excellent pont pour ça. Alors, c'est vrai qu'on baigne à travers cette double culture française et sénégalaise pour ma part. Mais justement, l'idée, c'est d'en faire un avantage, d'en faire quelque chose de positif et d'amener quelque chose de nouveau, justement.
On parlait de messages, par exemple, avec Aïssé. Vous, quel message ou quelle identité ressort réellement dans Paul Vagabond?
Alors moi, avec Paul Vagabond, ce que je fais, c'est que je travaille principalement le pain tissé. Voilà, donc un tissu ancestralement utilisé en Afrique, qui est tissé à la main. Je travaille avec une coopérative et c'est vrai que c'est vraiment ce que je souhaite mettre en avant et montrer que on a des belles étoffes en Afrique et qu'elles méritent d'être mises en avant tout autant que d'autres tissus. Voilà, c'est le pari que j'ai pris avec la marque.
Un bon pari et qui paye finalement, et on en parlera justement autour de ce buzz et de Paul Vagabond.
Alors on dit quoi? Avec Jaran Jaï.
On est sur RFI, vous écoutez, alors on dit quoi? Nous allons prendre en ligne notre premier éditeur qui est Keifa Couture. Nous sommes en ligne avec son fondateur Batch Dioum. Bonjour Batch.
Bonjour Jaran.
Alors, ce qui a été intéressant avec Keifa Couture, c'est que vous avez débuté avec une ligne pour femmes, pour vous consacrer uniquement aux hommes, finalement, toujours dans le haut de gamme, cela dit. Pourquoi ce changement de cible?
En fait, aujourd'hui, je dirais que la marque Keifa a déjà 9 ans d'expérience et qu'on a démarré avec habiller les dames. Donc aujourd'hui, on a viré pour habiller les hommes et d'ici décembre, on prévoit de lancer une collection spéciale pour les femmes.
À mon grand bonheur, vous allez également comme projet de lancer des franchises?
Oui, effectivement. Actuellement, on est en train de travailler sur des franchises au niveau de Bamako et au niveau d'Abidjan. Très bientôt, au niveau de Lagos.
Une dernière question. Keifa Couture, c'est aussi un positionnement haut de gamme. Est-ce aujourd'hui un choix stratégique pour vous?
Effectivement, c'est un choix stratégique. Parce qu'en Afrique, on a remarqué que ici, on avait un problème en fait de trouver des tenues haut de gamme, des tenues traditionnelles avec de très belles finitions. Donc du coup, nous avons décidé de se lancer dans cette niche. Et qu'aujourd'hui, on se retrouvait mon latin et qu'il y avait un vrai besoin. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié par les Sénégalais. En fait.
De la qualité et africaine.
Voilà. Effectivement.
Merci beaucoup pour votre appel et à très bientôt. Youssouf, un positionnement de luxe, ça peut marcher pour vous aujourd'hui? Africain, bien sûr.
Un positionnement de luxe, après... Enfin, moi, je connais très très peu le marché du prêt-à-porter, surtout le luxe, parce que je viens pas du tout du milieu de la mode. Après, forcément, oui, je pense que ça peut marcher. Il y a eu des marques qui ont été présentes dans le milieu du luxe. Après, bon, c'était pas forcément des marques dont la direction était africaine, une marque comme Edun, si je dis pas de bêtises, tout était fabriqué en Afrique. Donc voilà, et c'était du luxe, haut de gamme, avec des produits très bien faits, entièrement produits sur le continent africain. Donc oui, ça prouve qu'il y a totalement un marché, et c'est possible en Afrique.
Vous, justement, vous avez plutôt une cible populaire avec la maison Château Rouge. Parlez-nous justement de cette marque. Que se cache derrière Château Rouge?
Oui, tout à fait. Alors, on a une cible qui est très large. Et ça, on est hyper content de ça, parce que justement, je pense que pour nous, c'était important, en réalisant Maison Château Rouge, de réaliser un pont entre nos différentes origines, nos différentes cultures. Je suis d'origine originaire du Sénégal. Donc après, j'ai grandi à Paris, donc en France, en banlieue parisienne. Donc c'était essayer
plusieurs
de trouver...
Plusieurs mix culturels.
Exactement, c'est ça. C'est plusieurs mix culturels, et trouver un produit, en fait, qui puisse correspondre à tous ces différents à tout ce mix, parce que c'était hyper important pour moi. Et donc, en lançant Maison Château Rouge, on s'est dit ok, Château Rouge, c'est un quartier c'est le quartier africain de Paris, ça parle à tous les Parisiens, mais ça parle aussi à tous les Africains. Même si lorsqu'on est sur le continent africain, tout le monde connaît Château Rouge. Et c'était là où c'était intéressant pour nous, en tout cas, de rendre hommage à ce quartier, acheter nos tissus chez les commerçants, réaliser la production à Paris et montrer toute cette diversité culturelle qu'on retrouve dans le quartier, et surtout et montrer que c'est une richesse en réalité.
Vous vous attendiez à un tel engouement quand vous avez lancé Maison Château Rouge?
Pas du tout, parce qu'au départ, lorsque ça a été lancé avec un objectif qui était de financer un projet plutôt associatif qu'on lançait avec mon frère, et c'était pour financer une production de Bissap au Sénégal.
Mais qu'est-ce qui a séduit alors finalement?
Qu'est-ce qui a séduit? Ça, c'est une question très difficile, et je pense que en tant qu'entrepreneur et en ayant lancé une marque, je pense que il faut trouver un équilibre. Après, c'est presque magique, je pense. On peut même pas l'expliquer. Je pense que c'est comme lorsqu'on voit une célébrité porter nos vêtements. En fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Donc nous, on fait le nécessaire pour lancer notre marque, pour raconter une histoire, etc. Ensuite, le reste, ça nous appartient plus. Donc lorsque c'est un succès, c'est plutôt, en fait, c'est grâce aux consommateurs, aux clients finaux et tout ce qui se passe autour de la marque. Et je pense que voilà, après, c'est trouver cet équilibre, et c'est beaucoup beaucoup de travail à mon avis aussi.
Oui, beaucoup de boulot. Aïssé, vous aussi, vous vendez des t-shirts, de très beaux t-shirts qui sont accessible autour de 40 euros le t-shirt. Voilà. Quel est le profil de vos principaux acheteurs?
Aujourd'hui, le profil des acheteurs est large. C'est vrai qu'au début, la clientèle était principalement afro, mais maintenant, elle est parisienne, elle est devenue internationale, et c'est vraiment des personnes qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent aux cultures africaines. Et ce sont des personnes curieuses. Donc au niveau du profil, je sais pas, je pourrais dire que voilà, la clientèle elle est aussi parisienne, puisque il y a beaucoup de bobos aussi qui achètent du Africanista maintenant, et il y a aussi beaucoup de personnes engagées.
Est-ce que vous êtes un petit peu engagée?
Oui et non.
Mais qui se cache derrière Aïssé? Dites-nous en plus.
Alors, je m'appelle Aïssé Ndiaye, créatrice de la marque Africanista. Je suis une jeune femme de 37 ans. Dans la vie, je suis visuelle merchandiser.
Ah, donc à côté, vous avez quand même un job?
Oui, j'ai repris un boulot de visuelle merchandiser, parce que j'ai pas mal de projets que j'aimerais mettre en place. Et donc, voilà, je suis fan d'histoire, fan de culture africaine.
Voilà, on comprend mieux pourquoi il y a de si beaux messages derrière. Allez, on va prendre une autre auditrice en ligne, Manuela, qui est camerounaise, une jeune camerounaise de 25 ans. Elle a étudié à l'école de mode et de stylisme à Paris, l'école Modelta, avec à la clé un bac plus 4 en style designer. Bonjour Manuela.
Oui, bonjour.
Alors Manuela, vos études sont terminées. Que faites-vous aujourd'hui?
Bah là, je suis à la recherche d'un travail. Parce que j'ai mis un peu ma vie professionnelle, entre guillemets, quand je suis devenue maman. Mais donc, du coup, là, je recherche du travail.
Mais vous avez effectué, cela dit, des stages dans l'industrie de la mode avec parfois de mauvaises expériences. Racontez-nous.
Donc, il y a des entreprises, enfin, une en particulier, où j'ai pu travailler, où c'est sûr que je donnais beaucoup de mes idées. Et au final, ces idées, elles peuvent être utilisées au profit des entreprises. Donc parfois, je pense qu'il vaut mieux garder ses idées. Ouais.
On vous a finalement volé vos créations, c'est ça, Manuela?
Je ne sais pas si je pourrais dire voler, mais au final, oui, même quand je suis partie de l'entreprise, j'ai vu que cette entreprise se servait encore de ce que j'avais apporté au sein de celle-ci.
Ce qui est scandaleux. C'est pas simple, on le voit, hein, d'intégrer ce milieu. Là, on a des créateurs en vogue autour de ce plateau, nous en sommes très heureux. Mais pour une jeune comme Manuela qui tente d'intégrer ce milieu, quels conseils on pourrait lui donner, tiens? Par exemple, Youssouf, sur cette question, c'est vrai que s'imposer sur cette niche, ce marché de la mode africaine est très difficile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est vrai. Et puis on a l'impression qu'il y a aussi un engouement, beaucoup d'opportunistes là-dessus.
Ouais, c'est vrai que c'est un marché qui est très compétitif, déjà parce qu'il y a la mode africaine, mais aussi il y a la mode globale. Donc on est en compétition aussi avec d'autres marques et d'autres acteurs du secteur. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Mais à côté de ça, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être unique. Pour se démarquer, pour être unique, je pense qu'il faut faire quelque chose qui nous ressemble et être authentique. Et lorsqu'on fait quelque chose qui nous ressemble et qu'on est authentique et sincère, à ce moment-là, on arrive à se différencier et sortir son épingle du jeu dans un milieu qui est très compétitif. Mais je pense que c'est là le plus important. Et parce que la plupart du temps, en fait, ce qu'on fait, c'est on regarde d'autres modèles, d'autres marques, et on essaie de calquer ou de copier en se disant, bon, ben, eux, ça marche, donc on va le faire comme ça, etc. Mais forcément, la personne, lorsqu'elle le fait, elle a une vision et elle le fait forcément différemment. Donc, si on le fait, ça va pas forcément marcher pour nous. Mais à partir du moment où on s'écoute et on fait quelque chose qui nous ressemble et quelque chose qui sort
du cœur,
hein, ouais. C'est très important. Et là, on y arrive. Et je pense que c'est important et aussi parce qu'on va avoir foi en ce qu'on fait. Et à partir du moment où on a foi en ce qu'on fait, on est capable de surmonter tous les obstacles.
Vous partagez ce point de vue, Aïssé ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, l'important, c'est de savoir se démarquer. Et pour se démarquer, c'est pas forcément regarder qui fait quoi. C'est vraiment écouter son instinct, écouter son cœur et faire les choses comme on a envie de les faire. C'est ça le plus important. Et c'est surtout aussi, dans ce milieu, ce qui est difficile. Je pense que on a tous commencé en n'étant pas forcément dans le milieu de la mode, mais il faut savoir aussi protéger ses créations. C'est important aussi de protéger ce qu'on fait, de se renseigner d'un point de vue administratif, parce que c'est ce qui nous fait beaucoup défaut aussi en tant que créateur africain, c'est que on a beaucoup de créativité, mais on ne protège pas assez ce qu'on fait.
Une remarque très intéressante. J'espère que les auditeurs et créateurs qui nous écoutent vont se précipiter, en tout cas ceux qui sont en France à l'IMPI et dans les institutions africaines pour protéger leur création. Vous avez soulevé tout à l'heure, Youssouf, un point intéressant autour de la mode qui est en concurrence avec la mode aussi européenne, occidentale. Vous avez mené un partenariat justement avec ces créateurs comme La Redoute, si je ne me trompe pas, et Monoprix, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Comment ça se passe ce type de collaboration ?
Comment ça se passe ? Nous, on a été contactés par email pour Monoprix. Pour La Redoute, c'est la responsable des collaborations qui est passée nous voir directement à la boutique.
Donc vous n'êtes pas allé spontanément vers
Non, on n'est pas allé vers eux. Et puis pour l'instant, en fait, on n'a jamais démarché. On n'a jamais été dans une démarche où on allait chercher des partenariats, etc. Donc souvent, on a été sollicité pour ça. Et tout ça, ça rejoint ce que je disais au départ, l'idée essayer d'être fort tout seul. Je pense que c'est très important d'être fort tout seul, de travailler une image de marque forte et une notoriété pour qu'ensuite, en fait, on crée de la désirabilité autour de la marque et autour de notre projet. Parce que si très vite on devient dépendant d'autres personnes, ben le jour où on est abandonné, on n'est plus personne, et c'est là où c'est très compliqué. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire à notre
niveau. Donc vous avez vendu des produits Maison Château Rouge, ou alors vous avez créé des produits?
Alors on a créé une collection, donc pareil, pour les deux collaborations, c'était le même fonctionnement. Donc on a dessiné toute une collection, réalisé la direction artistique des collections, et toute la production ensuite a été réalisée par les partenaires.
D'accord. Il y a d'autres partenaires qui sont mis en place, c'est parfois avec des stars mondiales. Alors pour toutes les deux, ça a été votre cas, Aïssé et Diéna, avec Beyoncé, mais ce n'est pas tout. Racontez-nous comment vous avez réagi quand on vous a annoncé qu'une star comme Beyoncé allait porter votre création, votre t-shirt Aïssé ?
Franchement, j'y croyais pas. Pour tout vous dire, j'y croyais absolument pas. Et c'est quand j'ai vu... Parce que je voulais préciser, Beyoncé a porté deux modèles de t-shirt. Et quand j'ai vu que les photos ont commencé à circuler, déjà avec le premier t-shirt qui s'appelle Union, j'en croyais pas mes yeux, parce que c'est le t-shirt qui marchait le moins bien sur le site. C'était le loser du site.
Et donc aujourd'hui, il est sold out, si je comprends bien.
Et maintenant, c'est devenu le best-seller.
Waouh. Et pour vous, Diéna, alors racontez-nous.
Alors, pareil, Beyoncé, grosse surprise, très agréable surprise. Moi, Vraiment, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Un mois avant, j'étais à son concert au Stade de France, et vraiment en première ligne, et pendant tout le temps. Alors, j'étais avec des amis, et c'est vrai que, bon, elle faisait les folles, danser. Je me suis également aussi un peu amusée de mon côté, mais je l'ai surtout beaucoup observée. Et c'est vrai qu'au moment de faire partir les pièces, bah, la taille qui m'avait été annoncée, bah, c'est pas celle que... Enfin, moi, je trouvais que la taille, enfin, telle que moi, je l'avais vue sur scène, finalement, ne correspondait pas. Donc, j'ai pris le risque d'envoyer une autre taille que celle qui m'avait été demandée, et finalement, ben, le résultat final, on a juste l'impression que le vêtement a été fait pour elle. Donc, je pars du principe que vraiment, il n'y a pas de hasard et que les choses devaient se passer comme ça. Je devais me retrouver au Stade de France avec Beyoncé en face de moi, la voir, la sculpter et voir un peu quelle était sa morphologie exacte. Et franchement, ouais, ça a été de bon augure. Alors, pour ma part, elle a porté deux ensembles également. Alors, une robe, pareil, qui a été très vite sold out, et un ensemble mis en Alors celui-ci, à l'inverse de Aïssé pour Africanista, moi c'était la pièce phare hein, de la collection de Volta. C'était vraiment une collection, enfin c'était une pièce que j'avais dessinée en m'inspirant de Game of Thrones. Voilà, et de l'avoir portée par Beyoncé, qui est pour moi une des plus grandes, ben, ça a été un très grand honneur.
Et en termes de retombées, c'est la même chose qu'Aïssé, voilà, une visibilité internationale.
Mais en fait, finalement, l'épisode Beyoncé n'a fait que m'apporter, enfin m'a surtout apporté de la légitimité. Voilà, et c'est ce dont j'avais besoin réellement. Et voilà, maintenant, en 2019, à moi de faire le reste du travail. C'est vrai que depuis, les portes se sont ouvertes sur pas mal de choses. Il y a une reconnaissance qui est accrue au niveau des États-Unis, enfin, outre-Atlantique. Et bah, c'est sur cette vague que je compte surfer et j'y travaille. Voilà, je travaille pour.
Donc, beaucoup de boulot, il faut le dire. Hein. C'est pas en restant les bras croisés qu'on va réussir à atteindre des stars comme Beyoncé, n'est-ce pas? Alors, on continue de prendre les auditrices qui sont nombreuses à nous appeler. Nous allons prendre Célie Rabican, qui est également en ligne avec nous. Bonjour Célie.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Célie, alors nous on vous connaît parce qu'on a fait une recherche intensive, en tout cas pour ma part, autour de la mode, et vous êtes vraiment un coup de cœur pour moi, parce que j'ai adoré vos créations que j'ai vues sur les différents réseaux sociaux. Mais pour les auditeurs qui vous découvrent, comment on pourrait décrire en quelques mots votre univers, Célie?
Écoutez, je pense que mon univers, depuis quelques années quand même, est, tourne autour d'une obsession pour Dakar, pour la ville, pour ses codes couleurs, pour ce qu'elle exprime, pour sa scène créative. Et que c'est une, voilà, c'est une marque qui est urbaine, qui a un brin d'humour, qui aime les collages contrastants. Voilà, c'est une marque qui s'inspire essentiellement de la culture urbaine dakaroise, avec un brin de, voilà, de pop, de folie.
Avec un brin de Célie, finalement. C'est une marque qui vous ressemble beaucoup.
Elle n'est pas statique, elle évolue avec moi. Elle a évolué au cours de ma vie dans Dakar, au cours des rencontres que j'ai faites, des collectifs d'artistes dont j'ai fait partie. Donc voilà, c'est un work in progress et je pense que c'est le travail d'une vie.
Merci en tout cas pour votre appel, Célie Rabican. Et peut-être rappeler à nos auditeurs où retrouver vos créations.
Oui, mes créations sont vendues sur AfriCrea, elles sont vendues à notre showroom de Dakar. Et pour toutes nos actualités, vous allez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter.
AfriCrea, dont on va parler tout à l'heure, une plateforme justement qui met en vente des créations africaines. Merci beaucoup Célie Rabican.
Merci à vous.
À bientôt. On a également en ligne Mariam Gueye, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé Néné Yaya. Alors, c'est une marque qui mise sur la maroquinerie de luxe, une cible qui séduit les Africains, de plus en plus d'ailleurs, selon vous?
Oui. Donc, on a créé la marque en 2013 et nous faisons des sacs pour hommes et femmes, et petites maroquineries, chaussures, ceintures, portefeuilles, bracelets. Et nous, notre mise, c'est le haut de gamme. On a décidé de nous lancer dans le haut de gamme. Parce que, comme vous savez, les Africains aiment les bonnes choses, aiment les produits qui sont classe. Mm-hmm. Les mentalités ont tellement évolué parce que même lors de notre première vente privée, je me rappelle, il y avait des clientes qui étaient là-bas qui disaient « Oh, ça ne va pas marcher. Comment est-ce que vous voulez vendre un sac fait au Sénégal à plus de 250 000 francs CFA? Je préfère... payer un sac tel d'Occident que de payer un sac made in Africa. Mais maintenant, ces mêmes personnes viennent vers nous, ce sont nos best clientes, viennent vers nous, elles achètent nos créations. Les mentalités sont vraiment en train de changer depuis 5 ans. Je vois que les mentalités changent. Les Africains sont tellement fiers de porter nos créations que vraiment ça nous bouffe.
Merci Mariam Gueye, à bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Alors, on arrive bientôt à la fin de cette discussion. Le temps passe très vite. On va faire un tour de table pour recueillir peut-être vos projets à venir, Diana.
Actuellement, on travaille sur d'autres collaborations avec des marketplaces au niveau de l'international pour essayer de faire distribuer la marque et de la rendre visible au plus grand nombre. Et également, toujours travailler sur de prochaines collections. L'idée, c'est vraiment de continuer à monter en gamme et de proposer vraiment de la vraie mode made in Africa.
Et pour vous, Youssouf ?
Alors, nous, de notre côté, on travaille aussi pareil sur les collections. Donc là, on travaille sur la collection été 2020. Donc là, c'est notre projet. Après, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, surtout ?
nous, on veut l'exclusivité. Alors, dévoiler et puis...
Malheureusement, je ne peux pas dévoiler beaucoup de choses, mais on a une belle collaboration sur laquelle on travaille carrément fin d'année.
D'accord. Voilà. Tenez-nous au courant, on veut savoir.
Avec plaisir, hein. Ça marche.
Et pour vous, Aïssé ?
Alors actuellement, je travaille sur une prochaine collection qui va arriver bientôt. Et je travaille aussi sur un projet vidéo qui me tient beaucoup à cœur et qui va arriver à la rentrée.
Et on n'en dit pas plus, ou alors on nous dévoile la thématique au moins de cette vidéo.
Non, je n'en dirai
pas plus. Bon, c'est raté. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Merci infiniment, Aïssé.
Merci
Youssouf. Merci à vous, Diana. Et merci à tous les auditeurs qu'on a eu en ligne aujourd'hui.
Alors, on dit quoi ? Diaran Jai.
Et samedi prochain, nous parlerons d'illettrisme. Nous irons pour cela au Tchad, à la rencontre de jeunes Tchadiens. Pour eux, trouver du travail, faire ses courses ou encore lire un SMS s'avère être un vrai défi. Un défi qu'ils tentent de relever, nous le verrons, grâce à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette émission ou apporter votre témoignage, appelez-nous au 33 647 740 742. Je vous laisse à présent écouter et vous régaler avec ce titre de la belle ivoirienne Josie et son tube Mise au point.
Je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. Ah ouais, on est ensemble, mais on n'est pas mélangé. Tu veux te comparer à moi et tu veux jouer dans mon championnat. Pour me calmer, la vie, c'est Dieu qui m'a donné. Tu me connais et puis tu veux m'éteindre. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi je t'ai fait croire? Tu comptes sur quoi? Le feu est sur toi.
Et son tube Mise au point.
Alors on dit quoi ?
Et focus à présent sur un portail de la mode africaine, Africrea, un site qui met en relation les marques du continent et les consommateurs. L'un de ses fondateurs, c'est Kadri Diallo. Il est avec nous. Bonjour Kadri.
Bonjour.
Alors Africrea est né en 2016, on va dire. Pouvez-vous expliquer comment ?
On a commencé à deux avec mon associé Moulay, qui est un ami d'enfance en fait, et on a commencé en 2013. C'était un projet associatif que l'on faisait pour aider en gros nos tatas qui vendaient des bijoux d'Afrique, et aussi pour aider nos amis qui vivaient en France et pas en Afrique, qui nous demandaient toujours de nous ramener des bijoux africains qui n'étaient pas acceptables en France. Donc ça a démarré comme un projet un peu associatif qu'on faisait en parallèle de nos métiers. Et au fur et à mesure, on est tombé amoureux du projet, on a découvert l'étendue de la créativité de la culture africaine, surtout au niveau de la mode, surtout et ici également à Paris. Et en 2015, avec Moulay, on a décidé de se mettre à plein temps sur le projet.
D'accord, donc vous avez un peu formalisé un commerce africain qui était autour de vous.
Oui, voilà, d'accord. Clairement.
Et quels sont du coup vos critères de sélection pour être affichés dans le site?
Pour vendre sur Africrea, bon, faut être créateur, pas forcément africain. Le seul critère, c'est que les produits doivent être de la mode, de l'art et de l'artisanat, inspirés par la culture africaine.
Et aujourd'hui, il y a combien de créateurs qui sont répertoriés au sein de cette plateforme de commerce?
Là, actuellement, nous avons un peu plus de 4000 créateurs répartis dans à peu près 80 pays à travers le monde.
Ça fait beaucoup, hein, finalement, d'un simple entourage à...
Oui, bah, clairement, bah, c'est ce qui nous a surpris aussi. Et c'est pour ça qu'on est vraiment tombé amoureux de ce projet. On s'est rendu compte que la culture africaine avait sa place dans le monde entier. Et que partout à travers le monde, que ce soit en Australie ou...
Ça va jusqu'en Australie,
On a un créateur qui fait de la vente africaine qui vit au Chili.
D'accord.
Bon, voilà, il y a des... jusque là-bas.
Il y a combien de transactions, alors, par jour?
En termes de transactions, moi, je les calcule au mois. Moi, je regarde au mois. Les créateurs font à peu près 200 000 euros de vente tous les mois.
D'accord. Et vous en...
Nous, la mission d'Africrea, c'est de fédérer vraiment une communauté de créateurs. Et pour fédérer cette communauté, maintenant, le taux de commission est par défaut de 15%. Mm-hmm. Mais pour les créateurs qui partagent leur public sur la plateforme, clairement, cela veut dire mettre le lien de sa boutique Africrea sur Facebook ou Instagram, du coup, qui contribue à l'effort de faire agrandir la communauté.
Une visibilité aussi.
Exactement, passe à 10%.
D'accord. Et comment vous vous différenciez des autres plateformes? Parce qu'il y en a, notamment une grosse, Etsy, Jumia,
oui.
Par exemple.
Bah, clairement, bon, Etsy, on les considère un peu comme nos grands frères. Mm-hmm. Et honnêtement, c'est en découvrant des sites comme Etsy qu'on s'était dit que ça allait être, c'était sûrement possible de lancer ce projet, de nous mettre à plein temps. Donc, on les considère pas vraiment comme des concurrents, bon, sauf aux États-Unis, parce qu'ils restent la référence vraiment là-bas. Et on se différencie d'eux par notre spécialisation et notre niche. Parce que, en même temps, nous fournissons des services aux créateurs qui font de la création africaine, qui sont très spécifiques. Clairement, on leur donne des informations, on les aide vraiment dans leur quotidien de créateurs africains.
Il y a un accompagnement pédagogique derrière.
Exactement,
aussi.
Il y a énormément d'accompagnement et clairement, on essaye de résoudre avec eux des problématiques, par exemple sur les tissus africains, pour se réapprovisionner, qui sont des problématiques qu'on ne trouve pas chez Etsy parce que c'est très généraliste.
Et comment vous trouvez des solutions à ces jeunes créateurs du coup?
Nous, on part du principe que les créateurs, ensemble, sont beaucoup plus forts et ont beaucoup plus d'influence. Donc, on propose des offres mutualisées. Mm-hmm. Un simple exemple, lors de notre début, par exemple, on avait fait beaucoup de travail avec les créateurs pour les réunir et prendre des espaces dans des événements de vente. Voilà. Donc, en réunissant...
Comme ça coûte cher, vous avez communié tout finalement.
Voilà, en réunissant 30 créateurs, du coup, on se met en position de louer un grand espace et on devient rapidement le client numéro un de l'événement. Et du coup, on a plus de poids et on peut mutualiser les coûts ainsi.
Une dernière question, vous êtes aussi à l'origine d'un livre blanc sur la mode africaine en ligne.
Oui, tout à fait.
On va pas résumer le livre, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet ouvrage principalement?
Il y a énormément de données dans ce livre, mais ce qu'il faudrait retenir, ça serait le pourquoi de ce livre blanc. On s'est rendu compte que dans le milieu de la mode africaine et même de l'entrepreneuriat africain de manière générale, il n'y a pas de données. Voilà. Les entrepreneurs, il y a beaucoup d'entreprises africaines, mais il n'y a pas de transparence et c'est un obstacle. Lorsqu'on veut lever des fonds, développer l'entreprise ou même ne serait-ce que étudier la crédibilité d'un projet. Donc on s'est dit, nous on va lancer l'initiative d'amener de la transparence, on va parler de nos chiffres, de nos données. Et de mettre une pierre à l'édifice pour vraiment créer un marché chiffré de l'emploi.
Donc beaucoup de données pour aider les créateurs, investisseurs, tout un écosystème finalement.
Voilà, exactement. Clairement, bon, les créateurs ont déjà accès à beaucoup de données, Maintenant, l'objectif, c'est voilà, de participer à l'écosystème et aussi d'encourager ce type d'initiative.
Eh bien, merci infiniment. Kadri, peut-être rappeler comment avoir accès au site Africrea?
C'est très simple. Vous tapez afrikrea.com. Nous sommes sur Instagram, Facebook et sur Internet.
Merci beaucoup Kadri, et puis bonne continuation à vous, et puis je recommande bien entendu ce site de e-commerce africain.
Merci beaucoup.
Alors on dit quoi ?
On parle de mode, mode encore avec Kenzie, cette jeune styliste qui a souhaité nous adresser un message. On l'écoute.
Bonsoir tout le monde, c'est Maïmouna Djabi, plus connue sous le nom de Kenza. Alors, je suis une jeune dakaroise âgée de 23 ans, attirée par la créativité, le stylisme, la beauté et l'appréhension des choses. Une décision qui émane d'abord de ma volonté de mettre en exergue les richesses de mon pays, le Sénégal, et de la région de Kédougou, dont je suis originaire, mais encore de mon devoir de créer des emplois et de la valeur, ce qui a inspiré d'ailleurs le nom de ma structure, May Golden. May comme Maïmouna et Golden comme l'or dans ma région.
Moi personnellement, je sens que nous les jeunes Sénégalais, nous pourrions aller très loin avec nos créativités, mais qu'il nous manque juste un coup de main pour éclairer notre chemin. L'imagination est là et la volonté, elle est toujours présente. Donc, il faut juste un grand coup de main pour mener à bien notre mission. Du coup, si certains stylistes nous accompagnaient, nous serions mieux que cela.
Et si vous aussi, vous voulez qu'on diffuse votre message dans Alors on dit quoi, contactez-nous via Facebook, WhatsApp ou Twitter.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Mon coup de cœur musical de ce samedi, c'est le jeune Senior Senzi, de son vrai nom Emmanuel Ilunga. Il nous dévoile son Kamikaze, une merveille.
Yeah, salut Diarra, ici Senior Senzi pour ceux qui ne me connaissent pas. Artiste congolais, basé à Paris. Alors je viens vous présenter mon nouveau titre, Kamikaze. Pourquoi Kamikaze? Ben, tout simplement parce que c'est l'histoire d'un garçon qui déclare sa flamme à sa belle et qui lui fait comprendre qu'il serait capable de mourir pour elle. Donc voilà, Kamikaze, j'en dis pas plus et je vous laisse écouter ce super beau morceau. Yeso.
L'amour est mort depuis que tu m'as dit non. T'as déserté mon cœur et t'as fouillé avec le vent. Guerrier pour ton love, je me suis battu jusqu'au sang. Désormais je suis vaincu, je hisse le drapeau blanc. Pour toi je pourrais monter tous les monts, traverser toutes les contrées. Je pourrais même affronter le lion de Némée. Je t'offrirai sa peau comme trophée. C'est la même. Quand tu t'éloignes, te joues de moi, je te comprends pas, c'est la même. Je ne reconnais rien de nous, de toi, je ne suis plus moi. Kamikaze, kamikaze, je suis un kamikaze. C'est ma suite, il me laisse pas, tu m'exiles. Yeah, yeah, moi je peux t'aider quand tu passes là. Ne t'éloigne pas, les skin éclair et sexy. Yeah, yeah, moi je peux t'aider quand elle passe là. Ma suite, il me laisse pas, tu m'exiles. Yeah, yeah, moi je peux t'aider quand tu passes là. Ne t'éloigne pas, yeah, yeah. C'est la même. Quand tu t'éloignes, te joues de moi, je te comprends pas. C'est la même. Je ne reconnais rien de nous, de toi. Je ne suis plus moi. Kamikaze.
C'était Senior Senzi et son titre Kamikaze.
Alors on dit quoi? Jaranjai.
Les créateurs africains, les jeunes qui plus est, sont à l'honneur dans Alors on dit quoi? Et mon coup de cœur de cette semaine, c'est Deka Paris, fondée par Mariam en 2014. Elle est justement en plateau avec nous. Bonjour Mariam.
Bonjour Diarra.
Je suis très heureuse de vous recevoir ici dans les studios de RFI. Alors on va faire simple. Pouvez-vous présenter à nos auditeurs l'univers de Deka Paris?
Alors Deka Paris, c'est une mode entre l'Afrique et l'Occident. Donc le but c'est vraiment de lier les deux, de lier ma culture d'origine, qui est africaine, et de lier la culture dans où je suis née, qui est la France. Voilà.
Et alors, quelle est l'identité, comment on pourrait décrire les produits que vous proposez aujourd'hui ?
Alors, les produits que je propose sont axés essentiellement sur des vestes, des robes, des confections sur mesure, un panel vestimentaire.
Et vous parlez d'une touche d'africanité un petit peu. Quel tissu utilisez-vous pour confectionner vos produits ?
90% ça va être du wax. Et actuellement, je suis en train d'essayer d'agrandir l'univers de Déca Paris et de toucher d'autres tissus comme ceux de l'Inde.
Donc vous êtes une créatrice un peu internationale.
Exactement.
Et la raison d'être de Déca Paris, c'est de permettre à des personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Cette phrase, je l'ai retrouvée au sein de vos réseaux sociaux. Quel message vous souhaitez principalement véhiculer derrière cette marque ?
Donc Déca Paris, ce qui veut dire diversity knowledge, apprendre de la diversité. Donc le message fort de la marque, c'est vraiment d'apprendre de nos différences afin d'être unis. Donc à travers en fait cette collection que je propose aux jeunes, aux moins jeunes, c'est vraiment de se rassembler, quelles que soient nos différences, mais que quand tu portes Déca, tu sais que t'es différent, mais en même temps, on est pareil.
Un beau message d'union, donc.
Exactement.
Parce que la vie est un combat, entreprends et bats-toi. Encore une phrase de vous, Déca, vous êtes très forte là-dessus. J'ai beaucoup apprécié tous ces slogans un peu que vous véhiculez au sein de vos réseaux sociaux. À quoi ressemble justement la vie d'une entrepreneur comme vous aujourd'hui, d'une jeune entrepreneur et maman en plus, Mariam?
Exactement. Une vie rythmée, c'est la course un peu tous les jours. Un entrepreneur, c'est... Franchement, ça dort peu, ça se bat beaucoup pour ses idées, ses convictions. Quand on est entrepreneur, c'est à l'intérieur de soi. On sait pourquoi on se bat, on sait là où on veut aller. Et c'est pour ça que souvent je dis cette phrase, entreprends et bats-toi, la vie c'est un combat. Parce que quand on veut quelque chose, il faut se battre.
Où sera justement Déca Paris dans 5 ans, disons ?
Je souhaite une grande entreprise qui pourra véhiculer toutes ses valeurs et les transmettre aux plus jeunes pour qu'eux aussi entreprennent, quel que soit le domaine. Là, aujourd'hui, je suis dans la mode, mais après, j'ai d'autres idées, comme tout ce qui est lié au développement durable, tout ce qui est lié à l'agriculture, voilà.
Ici, en France, ou alors vous souhaitez développer vos activités sur le continent ?
En France, oui, c'est bien, mais mon but, c'est vraiment l'Afrique.
Alors, quel pays ?
Le Sénégal,
le
Mali,
bien sûr.
mes deux pays. Ouais.
Merci infiniment Mariam, et peut-être dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver les produits de Déca Paris et même l'univers Déca Paris à travers les réseaux sociaux.
Oui, alors mes réseaux sociaux sont essentiellement Déca Paris Official sur Instagram, ensuite le Snap Déca Paris, et voilà, mes deux réseaux sociaux.
C'est déjà pas mal. Voilà. Merci infiniment Mariam.
Merci à vous Diara.
Il est l'heure de rendre le micro qu'on reprend la semaine prochaine pour parler de l'illettrisme. Nous irons au Tchad à la rencontre de jeunes tchadiens qui ne savent ni lire ni écrire, un combat au quotidien. Et gardez à l'esprit qu'on peut rester en contact grâce aux réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram sont là pour ça. Et pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de RFI, sur Google Podcast ou encore sur SoundCloud. Et merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Djibril, Mariam et Guillaume. Bon week-end à vous tous. Salut, Ubno, Nuha, Gongol. À bientôt.